tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour à tous.
Et de Ben.
Salut.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera de Residents of Evil. On enchaînera ensuite sur Faith and Ancient. On parlera de After Party, Smoke and Sacrifice. On évoquera également le Google Play Instant. Nous parlerons de Ark Survival Evolved. On se penchera quelques instants sur des boîtes qui se regroupent pour parler d'un sujet très grave, n'est-ce pas? Et enfin, on terminera par Will Wright. Et oui, il n'est pas mort, il existe encore. Et il vient d'annoncer son nouveau jeu. Sans oublier notre jeu du moment, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est Ghost of a Tale. Allez, c'est parti, on commence donc avec Residents of Evil. Alors, vous l'aurez remarqué, il y a une similitude avec un autre nom, n'est-ce pas, Resident Evil. Ce n'est pas un hasard, c'est un projet amateur de fans de Resident Evil qui ont eu la bêtise d'appeler ça Residents of Evil, histoire d'être bien sûr que les avocats de Capcom leur tombent sur la gueule, n'est-ce pas? Par contre, il faut leur reconnaître une chose, c'est que, alors, je sais pas s'ils seront au point pour ce qui est du gameplay, des effets sonores, etc. Par contre, visuellement, ce qu'ils ont déjà montré est absolument sublime, n'est-ce pas? Et c'est prometteur. Alors, pour le moment, je précise que je vous mettrai une vidéo dans les liens de l'émission. C'est un vertical slice, si vous voulez. S'il y a des trucs qui ressemblent à Resident Evil, c'est normal. C'est pour montrer ce dont ils sont capables. Techniquement, c'est pas le jeu final que vous voyez, hein. Ils sont vraiment au tout début du développement. Je précise que c'est un projet qui, comme beaucoup de projets de fans, sera distribué gratuitement. S'il arrive un jour jusqu'au bout, ce qui très honnêtement m'étonnerait beaucoup, ne serait-ce que parce que, comme je l'ai déjà dit, avocat de Capcom, voilà.
Ouais, avec ce nom-là, je pense qu'il a peu de chances d'arriver au bout, ouais.
Oui, non mais en plus, bon, c'est un peu voyant, quoi, si tu veux.
Oui,
bon,
non mais voilà, donné, après peut-être qu'ils vont changer de nom au cours du projet, si c'est juste ça le problème, mais bon... Ça va être
non,
compliqué.
Mais même quand tu vas sur la, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais
si, si.
Dans leur logo, tu as un artwork qui vient de Resident Evil, en fait. Donc,
ouais.
Voilà. C'est la jaquette de Resident Evil 1, je crois. Le mec qui est là avec sa calache, avec le visage un peu déformé et tout, c'est totalement la jaquette de Resident Evil 1. Comme si c'était pas suffisamment casse-gueule comme projet, tu vois. Bon, enfin bref. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je leur reconnais une chose. Le mec qui fait les graphismes, pour eux, il est talentueux, quoi. Mm. Quelque chose à ajouter, messieurs?
Ça ressemble grandement au Resident Evil, le remake qui était sorti, du tout premier dans le manoir. Mmh. Après, c'est vrai que, comme t'as dit, il appelait ça Residents of Evil, c'est assez...
C'est chercher la merde.
Ouais, c'est ça. Puis même, l'artwork dont tu parles, c'est bien l'artwork de Chris Redfield, en fait, qui était sur la jaquette du premier jeu. Mmh. Mais bon, si les avocats de Capcom leur tombent dessus par rapport à ça, il suffirait qu'ils changent quelques éléments, et puis, je sais pas, qu'ils appellent ça Alone in the Resident, tu vois, et pour bien se mettre dans la merde et pouvoir le proposer. Mais c'est vrai que ça a l'air prometteur. En tout cas, c'est plus basé sur les tout premiers Resident Evil que, par exemple, Resident Evil 4.
Oui, avec des corps en précalculé, enfin, en précalculé. Ils sont pas en précalculé, là, en fait, mais si tu veux, comme la scène est fixe, ils peuvent se permettre de mettre plein d'effets un peu tape à l'œil, et c'est magnifique. Et je sais pas pour vous, mais quand je vois ça, je me dis, est-ce que c'est pas un peu ce qu'attendaient les fans de Final Fantasy VII quand ils parlaient d'un remake?
Ah, peut-être.
Parce que bon, quelque part, tu sais, je me dis que si des randoms fans de Resident Evil arrivent à faire ça sur leur temps libre, chez Square Enix, ils doivent être capables de faire ça chez eux sans que ça leur coûte un bras, tu vois. Enfin, je sais pas, je suis peut-être naïf là-dessus, mais personnellement, en tout cas, je vous avoue que quand je vois ce rendu-là, c'est effectivement le genre d'image que j'avais en tête quand je m'imaginais un remake de Final Fantasy VII, voilà.
Ah ouais, ben là, ils sont partis complètement sur autre chose, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, le tour par tour, tu comprends, c'est plus très vendeur, donc faut qu'on mette ça à la sauce action RPG, et puis faut que ça soit des graphismes tape à l'œil et tout ça. Et puis même, tu vois, enfin pour revenir vraiment à Resident Evil, Capcom a lancé pas mal de temps Resident Evil 2, un remake. Je me demande si ça va ressembler plus à ça ou si ça va ressembler à autre chose, parce qu'on a vu aucune vidéo alors que ça fait très longtemps qu'il est annoncé, quoi. Je suis quand même assez inquiet pour le projet, parce qu'on normalement quand un jeu avance on aurait pu avoir des images de gameplay, mais là ça fait quand même, je sais pas, 3-4 ans que le truc il a été annoncé, on n'a rien vu, quoi.
Bon, quoi qu'il en soit, on va passer à la suite et on va parler de Faith of the Ancient. Pourquoi on vous parle de ce jeu cette semaine? Parce que c'est tout simplement un jeu sauce RPG à la japonaise, mais venant de Chine. Alors, certes, ça n'a pas l'air original pour un sou en termes de mécanique, de déroulement, etc. Enfin, c'est vraiment du JRPG classique, on va dire. Mais par contre, comme ça vient de Chine, enfin, déjà, il y a quelque chose en termes d'ambiance, de musique, d'exotique, voilà. Alors, je sais pas, peut-être que ça sera une grosse bouse. Par contre, il faut leur reconnaître une chose, ils ont une jolie modélisation de personnages et des animations qui sont super cool, voilà. Personnellement, c'est un projet que je surveillerai. Ça doit sortir sur Steam en Occident. Enfin, c'est déjà sorti sur Steam en Chine, je crois. Mais ça doit débarquer chez nous le 22 mars.
Et par contre, il fait mal aux yeux un petit peu, hein, le jeu.
Bah, de toute façon, c'est un petit projet. Hein.
Ouais,
c'est
bien
pas
sûr.
Non plus,
Mais bon, il y a des amateurs qui... Puis même des studios indés qui font des trucs plus jolis aujourd'hui, quoi.
Alors, c'est bizarre parce qu'il y a certaines parties où c'est très joli. Et par contre, il y a certains aspects ouais, qui sont un peu étonnants, on va dire, par rapport au reste, parce que j'ai regardé en partie la longue vidéo qu'ils proposent. Bon, je pense qu'ils font tourner ça sur un PC assez puissant. T'as une vue immense sur la vallée, et c'est vraiment très joli. Et par contre, des fois, les détails sont pas très très bien faits, quoi.
Ouais, après, ça reste quand même un petit jeu, donc voilà, on va pas tout miser sur des graphismes tape à l'œil. Je préfère que
non,
le jeu soit
sûr,
bon,
ouais.
etc. En plus, ça, ça a l'air de se baser sur de la mythologie chinoise. Nous, on n'est pas trop habitués à ça, dans les RPG, surtout, même, enfin, japonais, c'est pas du tout la même mythologie, hein. On est vraiment sur quelque chose de différent, mais par contre, moi, il y a juste une chose qui me dérange, en plus des graphismes, c'est pourquoi mettre une petite fille comme ça, tu vois, c'est...
ATH, avec toutes ces années passées au Japon, tu vas pas me dire que t'es pas habitué, maintenant, aux petites filles, qui... En plus, c'est pas une petite fille, c'est une fée. Nuance. Non, non, c'est vrai que ça fait un peu... Disons que ça fait un peu tendancieux, quoi.
Même pas par rapport à l'aspect tendancieux du truc, c'est juste par rapport, tu vois, le personnage principal qui a l'air d'être un guerrier, et à côté de ça, t'as une espèce de petite fée qui fait 1m20, enfin, tu viens, tu lui mets une claque dans sa gueule, quoi, elle a pas sa place sur un champ de bataille, quoi, c'est tout.
Ouais, mais elle a la magie, non, et la magie, c'est trop fort.
Ouais, voilà. Mais bon, c'est ça, c'est, moi,
j'appelle... La gueule, j'appelle, c'est magique, c'est tout, voilà.
J'appelle ça exploitage d'enfant, quoi, elle est pas en âge de travailler.
Bon, quoi qu'il en soit, c'est disponible actuellement sur Steam. Je me pose quand même des sérieuses questions sur la traduction parce que c'est généralement le problème avec ces jeux-là. Parce que le truc, en fait, c'est que là, je vois actuellement que la page n'est pas traduite, donc je me demande s'il est vraiment traduit, en fait.
Mais en tout cas, s'il y a une traduction, on peut penser qu'il y a peut-être une meilleure traduction que peut-être chez les Japonais, par exemple, parce que c'est quand même des gens qui sont habitués à utiliser l'anglais, parce qu'il y a certaines parties en Chine où l'anglais était la deuxième langue, tu vois.
Ouais, alors, d'expérience, pour avoir vu beaucoup de jeux chinois sur Steam, c'est pas vrai, hein, c'est de la Google Trad.
Ah, ok, non, mais après, je me suis dit peut-être qu'il y avait un espoir dedans, tu vois.
Ils mettent pas des moyens dans la traduction en général quand il y en a, hein. C'est la traduction du Schnapps. Donc, voilà, c'est un projet original qui débarque sur Steam, donc si vous parlez chinois, allez-y, sinon, bah écoute, on verra. Il est achetable en Occident, par contre. Voilà.
Ah oui, bah, on dira pas non à l'argent, hein, peu importe d'où ça provient. Hein.
Bon, allez, on passe maintenant à une annonce d'un nouveau projet. Ce projet, c'est After Party. Alors, qu'est-ce que c'est After Party ? C'est le nouveau jeu des créateurs d'Oxenfree. Donc, pour ceux qui connaissent Oxenfree, vous savez déjà à quoi ça va ressembler, parce que c'est exactement dans la même veine. C'est-à-dire que Oxenfree, c'est un jeu essentiellement narratif, où la narration avançait en bourbattant. Mais par contre, c'était pas un jeu où, comme dans un visual novel, si tu veux, tu pouvais t'arrêter, réfléchir à ce que tu vas répondre, etc. Non, non, non. Là, ça enchaînait crescendo. Et c'était ça qui était intéressant dans Oxenfree, parce que du coup, ça donnait une narration qui a avancé à un rythme constant, avec des embranchements en fonction des choix de dialogue que tu avais fait, etc. After Party, apparemment, se base sur le même principe. Vous allez jouer deux adolescents qui, après s'être fait tuer, visiblement, se retrouvent en enfer, et ils vont devoir faire la fiesta pour se barrer. Il va y avoir des concours de boire des coups, etc., avec Satan, pour essayer de s'enfuir de l'enfer. L'ambiance a l'air un peu barrée. Surtout qu'apparemment, les choix auront pas mal de conséquences. Moi, j'aime bien ce genre de jeu qui prennent un parti pris assez fort. Parce que mine de rien, un jeu où tu ne fais que choisir des dialogues, mais où ces dialogues ont des conséquences, c'est suffisamment rare pour être noté. Enfin, c'est toujours mieux que certains jeux où on te fait croire que tes choix ont une importance, mais au fait, Osef, quoi.
Par exemple, des jeux comme les jeux Telltale ou bien... un jeu qui est sorti récemment, A Way Out, qui ne propose pas vraiment de choix, donc ça serait bien que ce type de jeu-là...
ATH, ne spoil pas le test.
J'ai pas spoilé le test, j'ai lu juste les articles qui sont apparus dans la presse, donc je dis ça, je dis rien.
Ouais, d'ailleurs, spoiler alerte, je pense que je serai très énervé sur le test de A Way Out, mais peut-être qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise.
Si, on arrive à le faire.
Ah oui, oui. Ah oui, d'ailleurs, tiens. Ah oui, vous me faites penser. J'ai eu une expérience très désagréable cette semaine avec Origin. Alors, de ce que j'ai compris, en fait, c'est que sur Origin, à partir d'un certain pourcentage téléchargé, tu peux commencer à jouer au jeu. Alors, c'est bien de mettre ce genre de feature, hein. Sauf que si ça te bloque le reste du téléchargement derrière, c'est de la grosse merde, en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai pas arrêté d'avoir des erreurs. Du coup, impossible de terminer le téléchargement, donc j'ai dû tout effacer, tout recommencer, en croisant les doigts très très fort pour que ça continue de marcher. Hein. Parce que si ça me refait le coup et que à 37% ça marche plus et que bah je saurais pas quoi faire en fait. Voilà.
Non mais à mon avis, je pense que c'est Electronic Arts qui veulent te faire passer un message parce que
ouais ouais, je pense aussi.
T'as pas lancé Origin depuis 92 donc
Pour tout vous dire, j'ai 3 jeux dessus, dont 2 jeux BioWare, et le seul ami que j'ai sur Origin, c'est Ben. Voilà, j'ai pas d'amis sur Origin. Bon, allez, on va passer à la suite, et on va parler maintenant d'un autre jeu qui va peut-être titiller Ben, et ce jeu, c'est Smoke and Sacrifice. Pourquoi je pense qu'il va titiller Ben? Parce que ce jeu puise son inspiration dans un titre auquel Ben a pas mal joué avec Morren. Bon, là, malheureusement, apparemment, il n'y a pas de coop prévu, hein, Ben, désolé.
Ouais.
Ce jeu s'inspire très fortement de Don't Starve. Donc, Don't Starve, je le rappelle, c'est un de ces jeux de la première vague d'indé qui ont cartonné, où dans une ambiance un peu Tim Burton-esque, vous surviviez dans des environnements un peu Lovecraftiens, on va dire. C'est-à-dire que vous aviez un personnage qui devait gérer la folie. Il fallait faire gaffe à l'heure, parce que dès que la nuit commençait à tomber, bah forcément, quand il fait noir, le personnage devient de plus en plus parano et de plus en plus barjot. Et puis surtout, si vous avez plus de lumière et que vous vous baladez dans la pampa, bah, les monstres ils viennent vous bouffer, hein, ils sont pas très sympas. Donc il fallait faire gaffe à sa torche aussi, parce que la torche, ben... c'est ce qui vous préserve de ce qui rôde dans l'ombre. Donc, Smoke and Sacrifice puise énormément d'inspiration là-dedans. À ceci près que c'est un jeu qui aura une histoire, parce qu'on est bien d'accord, Ben, Don't Starve, même s'il y avait des éléments d'ambiance, on va dire, il n'y avait pas tellement d'histoire, en fait.
Non, non.
Et il y aura quand même quelques petits changements, parce que comme il y a une histoire et comme... c'est un jeu où, je pense, recommencer depuis le début n'aurait pas grand intérêt. Parce que si à chaque fois que tu recommences, tu te retapes la même histoire, c'est pas top. Hein. Il sera un peu moins hardcore sur certains aspects, notamment la gestion de la bouffe et la santé mentale, par exemple. Il y aura pas ce genre de choses. Par contre, un peu comme dans Don't Starve, donc il y aura cette vue du dessus, où vous pouvez observer les environnements de loin. Et surtout, il faudra également regarder sa montre, parce que vous allez jouer une mère, en fait, qui vit dans un espèce d'univers où il y a un soleil artificiel qui est alimenté de manière un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il sacrifie un peu des enfants pour qu'ils continuent à être alimentés. Sauf que, ben, en fait, l'enfant de cette mère, il va être sacrifié. Et apparemment, ça va ne servir à rien, parce que le soleil artificiel, il va quand même s'éteindre au bout d'un moment. Du coup, elle va se rendre sur les lieux du sacrifice, elle va se rendre compte, en fait, l'espèce d'hôtel où son enfant avait disparu, bah c'était pas tellement un hôtel de sacrifice, c'était une machine qui téléporte dans un autre monde. Et donc, son but, ça va être d'explorer, de découvrir cet univers, un peu comme dans Monstar, quand tu vas partir en vadrouille, il va falloir regarder l'heure, parce qu'à partir d'un certain moment, ben il y a une espèce de gaz de poison qui va s'abattre, et il vaudra mieux être chez toi bien au chaud que dehors à ce moment-là. Parce que tes HP ils baisseront au fur et à mesure. Et là où ça devient intéressant, c'est que j'imagine qu'après, tu vas pouvoir crafter des trucs, explorer plus longtemps, y compris à certaines heures du jour, etc. Enfin bref, moi ça m'intéresse parce qu'il rajoute justement quelque chose qui me manquait dans Don't Starve, c'est un but, tu vois, un MacGuffin. Parce que c'est vrai que Don't Starve, des fois, t'avais un peu cette sensation d'errer sans but, quoi.
En fait, le but dans Don't Starve, c'était vraiment de survivre. C'était vraiment voilà, la ça. Partie difficile, il n'y avait pas d'histoire.
C'était limite un jeu à scoring, j'ai envie de
ouais,
dire.
Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment le but, c'était de tenir le plus de jours possible en vie. Là, ils ont pris le parti de mettre une histoire et donc d'intégrer des éléments un peu différents.
Et donc de changer les mécaniques en conséquence.
Exactement, c'est intéressant parce que refaire du Don't Starve, alors clairement, comme tu l'as dit, il y a une inspiration, notamment quand tu vois sur la vue, sur les personnages, la façon dont ils se déplacent, ça ressemble énormément à Don't Starve.
Ouais, l'animation, tout ça, un peu poupée, voilà.
Mais par contre, voilà, ils ont pris ce parti de créer une histoire et donc, comme tu disais, de changer un peu le gameplay, la façon de voir les choses. Et ça, en effet, ça peut être intéressant. Alors moi, Don't Starve, je l'ai beaucoup apprécié aussi pour le co-op, parce que typiquement, c'est le genre de jeu que j'aime faire en co-op. Du coup, je trouve ça un peu dommage, même si je pense que, pour le coup, ça se vit aussi en solo plus facilement que Don't Starve, ce type-là.
Ouais, parce que Don't Starve, pourquoi le co-op a apporté quelque chose aussi, c'est qu'au bout d'un moment, à force de tourner en rond, le fait de jouer avec quelqu'un, tu sais, ça crée une espèce d'alchimie qui manque un peu au jeu de base aussi, quoi.
C'est ça, en plus, Don't Starve, c'est un vrai roguelike, c'est-à-dire tu meurs, si t'es tout seul, bah, tu recommences du début. Déjà, voilà. Avec à deux, t'avais la possibilité de crafter au bout d'un certain temps un objet qui te permettait de ressusciter ton coéquipier, donc voilà, il y avait certaines choses qui prenaient un intérêt un peu supérieur, et puis voilà, organiser les tâches, toi, va chercher tel truc, va chercher tel truc, on se regroupe là, enfin bon, l'intérêt pour moi de Don't Starve était vraiment dans le co-op pour vivre pleinement l'aventure, parce que sinon je pense que c'est vraiment très très dur de vivre longtemps dans Don't Starve.
Parce que le truc c'est que Don't Starve c'est pas une aventure finie en fait, c'est-à-dire oui. Que un peu comme dans un FTL, bah tant que t'as envie d'y jouer, t'y joues quoi, et ça peut durer des années comme ça. Alors que là, bah il y a clairement un but, et je pense qu'une fois que t'auras atteint ce but, bah tu passeras à autre chose.
Oui.
Je pense qu'aussi ça peut convenir à un certain public qui peut trouver un intérêt dans les mécaniques de survie, mais pas juste la survie pour le plaisir de la survie, quoi.
Ouais, je suis plutôt d'accord, ouais. Donc, à suivre.
Je sais pas s'il y a une date de sortie, alors, je crois pas.
2018, ils disent, il va sortir sur les 4 plateformes. Enfin, PC, PS4, Xbox et Switch. Voilà, c'est la totale. Mais typiquement, c'est un jeu qui doit être très très bien à faire sur Switch en mode portable.
Ah bah surtout que le rendu s'y prête très très bien pour le coup. Ah oui, précisons d'ailleurs pour After Party qu'il sortira en 2019. Donc vous avez le temps. Bon, on va maintenant parler d'une initiative de Google, ATH. Ça s'appelle le Google Play Instant.
Donc c'est une annonce qui a été faite en fait à la Google Developer Day lors de la GDC 2018. En fait, c'est une nouvelle fonctionnalité de Google qui permet aux joueurs Android de grandement faciliter la découverte de jeux en proposant des démos qui sont pas téléchargées directement. Le principe, il est simple, c'est vous avez un bouton qui va être ajouté maintenant sur les jeux qui proposent cette fonctionnalité-là, qui permet d'essayer le jeu instantanément. Vous avez un écran comme une publicité, si vous voulez, un espèce de pop-up de quelques secondes qui apparaît. Puis, une fois que ce pop-up est parti, vous pouvez directement jouer au jeu. Pour l'instant, c'est compatible uniquement avec 6 jeux. Donc ça, c'est une nouvelle qui, je pense, est plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que télécharger des démos, ça prend un petit peu de temps. Alors que là, c'est quasiment instantané, quoi.
Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Parce que, soyons clairs, pour moi, le stream pour les jeux complets, autant ça, c'est de la folie. Parce que je trouve que ça demande des ressources pas possibles pour jouer des heures et des heures sur les jeux. Enfin, voilà, pour moi, c'est totalement déraisonnable. Par contre, un petit stream comme ça, pour tester vite fait un jeu, pour voir s'il nous convient, pour le coup, sur mobile, ça te permet en plus d'enchaîner rapidement les tests de jeu. T'es dans les transports, tout ça, donc t'as pas forcément le temps non plus d'attendre que le jeu finisse de se télécharger pour pouvoir le tester, quoi.
Par contre, je pense que ce qui est pas mal, c'est ce type de technologie. Tu vois, par exemple, si t'as des gros jeux, parce que aujourd'hui, les jeux, ils font quand même pas mal de gigas. Hein. T'as des jeux qui font plus de 50 gigas facile. Au lieu de télécharger une démo qui prend pas mal de temps, t'as, entre guillemets, le premier niveau qui est en streaming. Tu le fais, tu regardes au moins si ça te plaît, les mécaniques, etc. Puis si ça te plaît, bah tu achètes le jeu. Ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde, je pense.
Mais c'est une techno qu'ils ont déjà, puisque PlayStation, avec leur PlayStation Now, c'est ce qu'ils font. Alors là, c'est des jeux complets, c'est du streaming de jeux complets, mais c'est juste qu'aujourd'hui, ils n'ont pas fait le choix de proposer des démos en streaming comme ça. Mais c'est une techno qui est pas brevetée, que tout le monde peut utiliser. Donc aujourd'hui, c'est un choix de pas le faire, mais peut-être que dans les années à venir, ils se diront que c'est pas une mauvaise idée. Ouais.
Et pour moi, tu vois, c'est vachement plus pertinent de faire ça sur des démos que sur des jeux complets. Hein.
Ouais, bien
parce
sûr.
Que sur les jeux complets, enfin... Je trouve que en termes de ce que ça demande de ressources, si tu veux, c'est
voilà, déjà
délirant,
aujourd'hui tu empêches une partie de la population d'y accéder. Moi, ma connexion internet, c'est impensable que j'utilise ce genre de techno. Je pense notamment à Shadow là qui a sorti ses PC dans le cloud qui marche a priori très très bien. Mais voilà, si t'as pas une fibre optique nickel, ça ne sert à rien. Donc,
et puis même toi qui es à base dans le réseau, enfin, tu me contrediras pas. Je pense si tout le monde demain se met à faire ce genre de choses.
Il va falloir
grossir un peu. Il va y avoir des petits soucis chez Orange, Free et compagnie.
C'est ça, il va falloir agrandir les tuyaux un petit peu.
Ouais, voilà. Et je pense qu'ils seront pas trop d'accord à ce moment-là. Enfin, on connaît tous les petits soucis qu'on peut avoir sur Twitch, par exemple.
Oui.
Oh bah tiens, c'est bizarre, si je passe par un proxy, ça marche vachement mieux Twitch. C'est très étrange. C'est...
Bah, on sait que Free demande notamment à tous ces gens-là... notamment à Google pour YouTube, pour prendre un exemple simple, de les aider à financer leur bande passante parce que ils en consomment énormément. Google dit on s'en fout, et ben Free bride YouTube. Voilà, en gros c'est pour faire court, ça se passe comme ça. Donc c'est vrai que si un jour toutes les plateformes PS1, Xbox se mettent à faire la même chose, ça peut être compliqué, ouais.
Mais d'un autre côté, ça pose un problème parce que si demain les fournisseurs d'accès commencent à faire payer les plateformes.
Bah, ils vont te le retranscrire sur les joueurs.
Non, mais surtout, quid des petits acteurs, parce que...
Oui, aussi.
On commence à créer un internet à deux vitesses, tout ça. Enfin, là, on parle de neutralité du net, ce genre de choses. Mm-hmm. Autant, tu vois, pour des démos comme ça, ça ne dérange pas, parce que je pense que ça demande pas non plus des ressources délirantes. Enfin, je veux dire, tout le monde va pas tester des démos H24, tu vois. Par contre, si on commence à foutre ça sur des jeux complets, c'est... Là, je pense que c'est un poil déraisonnable et ça créera énormément de problèmes. Bon. Alors, ATH... Maintenant, on va passer à la news qui a hypé Mandren. C'est une annonce, franchement, on l'a pas vu venir là.
Alors, jeu à succès qui fait son grand retour sur une petite console qui est transportable, on va dire. Je veux bien parler de Ark Survival Evolved qui va être disponible sur Nintendo Switch. Annonce qui a été faite lors de la Game Developer Conference 2018. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus, sur ce jeu-là qui va être disponible sur la plateforme de Nintendo, tout simplement.
Alors moi, je m'en foutais sur PC, donc je m'en foutrais toujours sur console. Hein. Je ferais remarquer qu'à mon avis, le jeu, vu son optimisation légendaire sur PC, je pense qu'il tournera en 720p 15 FPS sur Switch.
Non, mais déjà il tourne en 720p 15 FPS sur PS4, tu vois.
Donc... Je pense que je suis optimiste hein, en disant ça. J'annonce au passage que Mordren reprendra bientôt les vidéos sur Ark, hein, surveiller sa chaîne. Ça, c'est pour toi, Mordren. Et je me tourne vers Ben, du coup, parce que... Parmi nous tous ici, bah, s'il y en a bien qui a joué, qui a passé du temps, c'est lui. Est-ce que ça te hype, Ben, ou est-ce que il y en a ras-le-bol?
Il y en a totalement ras-le-bol, hein, c'est... c'est... Après, comme l'a dit ATH, c'est pas du tout une surprise qu'aujourd'hui il sort sur Switch. Déjà, aujourd'hui, tous les jeux sortent sur Switch, quasiment.
Ouais, mais si tu veux, tu connais aussi bien que moi, comment dire, l'optimisation du jeu.
Oui, mais tu sais aussi que ils s'en battent les couilles a priori, donc.
Non, mais enfin, il y a quand même un grand problème dans. Là, on parle vraiment du côté technique de la chose, c'est que déjà sur console telle que la Xbox One et la PS4, que ça soit même leur version Pro ou bien X, ça a du mal à tourner, ça rame et tout ça. C'est le jeu est moche. Enfin, ça pose des problèmes déjà de plaisir ludique en tant que tel. C'est pour ça que je vous pose la question par rapport à la Switch. Si le jeu déjà a du mal à tourner sur ces bécanes-là, est-ce que ça va tourner sur une Nintendo Switch, quoi?
Ah non, non, il va sûrement très mal tourner. Mais après, c'est toujours le même problème, c'est que s'ils le font sur Switch, c'est que les versions PS4 et Xbox ont marché, donc que les gens ont acheté. Et une fois de plus, on va dire, le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est avec son porte-monnaie. Si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, voilà, faut pas acheter le jeu. Il aurait pas sorti sur Switch si la version PS4 et Xbox One n'avait pas fonctionné, il y avait pas eu un retour financier intéressant. Alors après, que ça soit pas optimisé, on en est tous persuadés, comme tu l'as dit, sur les plateformes actuelles, ils tournent pas bien.
Bah, de toute façon, c'est même pas un jeu fini, de toute façon, hein. Donc,
voilà. Voilà. Enfin, là, je pense qu'il faut pas se faire d'idées, quelles qu'elles soient, ça ne tournera pas bien.
Et pour moi, je le dis, c'est un jeu qui est encore en accès anticipé. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Si vous avez besoin de la preuve que n'importe quoi peut sortir sur Switch, bah vous l'avez. Parce que ça, c'est un jeu en accès anticipé, qui officiellement est sorti d'accès anticipé, mais qui l'est toujours, hein.
Voilà. Il faut pas s'attendre à ce que ça soit optimisé. Ça c'est sûr, même pas que ça tourne bien. Après, est-ce qu'il peut y avoir un public? Bah pourquoi pas, parce que le jeu en mode portable, je pense qu'il a aussi un intérêt. Enfin, pour les gens qui aiment bien, il peut avoir un intérêt. Mais après, faut pas s'attendre à des miracles, là, c'est sûr.
Et puis bon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, on a un studio qui se fout de la gueule du monde. Moi, c'est aussi pour ça que je voulais parler de ça, c'est que je rappelle quand même qu'on parle de gens qui ne respectent pas leur clientèle, qui ont quand même sorti un DLC alors que le jeu était encore en assez anticipé. Moi, j'espère que les gens ne cautionneront pas ça, même si je me fais pas d'illusion, le jeu a cartonné jusqu'ici, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Sauf peut-être une technique tellement catastrophique qu'au bout d'un moment, les gens se disent « bon, ça va, on va peut-être arrêter les frais là, quoi ». Mais voilà, moi je ne vous incite absolument pas à acheter ce bousin, voilà. Je sais que Morgan et Ben ont passé de bons moments dessus, mais le fait est que c'est un jeu qui n'est pas fini, et à un moment donné, il faut pas cautionner ce genre de choses, quoi.
Non, bien entendu, nous on a acheté le jeu en tout état de cause en sachant qu'on achetait un jeu à un accès anticipé à l'époque. Il était vraiment en accès anticipé, donc qu'il y ait des bugs à ce moment-là, pas de soucis.
Et à l'époque, c'était un des accès anticipés les plus exemplaires.
C'est ça, on en avait parlé plusieurs fois en disant qu'au début, c'était très bien, ils communiquaient beaucoup avec les joueurs, ils essayaient de corriger les choses, et puis il y a eu d'un coup, c'est complètement parti en vrille entre le fait de, bah, comme tu disais, de sortir un DLC avant la sortie finale du jeu, enfin bon, ça a pas arrêté. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, eux, ils auraient tort de se priver de le sortir sur Switch parce que bah ça va fonctionner. Mais après, oui, nous, en tant que joueurs avertis, il faut à tout prix éviter d'acheter ce genre de jeu maintenant.
Mais c'est sûr. Alors après, ils assurent que l'expérience ne sera pas différente par rapport au jeu de base, mais par contre, il faudra faire des concessions sur la partie technique et également aussi la disparition de quelques dinosaures dans certains coins, quoi.
Bah ça, à la limite, qu'on te dise bon, par exemple, quand tu vas prendre ta Switch en mode portable, quand t'abaisses les graphismes, c'est pas illogique dans l'idée.
Ouais.
Après, faut voir si malgré ça, le jeu tourne correctement et pas trop dégueu, quoi.
Non mais Ben, ils ont déjà répondu à la question. L'expérience oui, sera pas différente du jeu de base. L'expérience est merdique sur le jeu de base, donc elle sera merdique davantage. Voilà.
Mais par contre, il y a quelque chose que je trouve assez étonnant dans leur déclaration. Alors là, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Si l'un de vous pourrait m'éclairer là-dessus, c'est que le mode portable apportera une nouvelle dimension aux activités de chasse, d'élevage ou encore de construction.
Non mais par exemple, par rapport aux mécaniques d'élevage, etc., je rappelle quand même que Ark, c'est un jeu où quand tu veux choper un dinosaure, il faut 7 heures de time pour... Je précise, 7 heures en vie réelle. Hein. Enfin, c'est quand même sympa, si tu veux, de pouvoir surveiller ton jeu du coin de l'œil, même quand tu pars de chez toi, quoi, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Après, à mon avis, il n'y aura pas de mécanique spécifique ou
non,
ce genre de choses.
Je pense que le jeu sera le même, ouais.
Bon, allez, on passe à la suite. Et on va parler, Ben, de la toxicité dans les jeux en ligne.
Bah, comme vous pouvez le savoir, suivant certains jeux en ligne auxquels vous pouvez jouer, on se retrouve parfois avec des gens qui n'hésitent pas à insulter, à faire tout ce genre de choses pas très sympathiques. Et du coup, bah, il y a une alliance de plusieurs studios qui s'est montée, qui s'appelle la Fair Play Alliance. Ça a été aussi annoncé à la dernière GDC. Et voilà, le but de cette alliance, c'est d'essayer de lutter et de sensibiliser voilà à tout ce genre de problèmes que peuvent connaître certains jeux en ligne. Donc on peut noter qu'il y a Blizzard, il y a Riot, il y a Epic, il y a Twitch, il y a Discord, ils sont pas mal à en faire partie. On sait bah voilà, notamment les jeux type LoL, type Dota, c'est pas toujours le genre de jeu où les gens sont polis et courtois. Pour dire ça gentiment.
Il y a un sacré paquet de gros cons, oui, tu peux le dire, ouais.
Ouais, y en a dans le lot, voilà, c'est pas forcément une majorité, mais quand tu tombes sur des gens comme ça, bah, ça te gâche un peu l'expérience.
Tu sais, les mecs qui jouent leur vie à chaque fois qu'ils sont dans une partie, et le pire, non mais je pense que les pires, honnêtement, c'est ceux qui te cassent les couilles parce que selon eux, tu joues mal. Après, tu peux jouer mal, tu vois, mais
oui,
c'est une façon de dire les choses, etc. Et surtout, qui eux-mêmes jouent très mal. Donc ça, c'est... c'est la cerise sur le gâteau, tu vois.
Je suis quasiment sûr que même sur la belette en ligne, il y a des gens qui doivent faire chier aussi les gens.
Oh bah bien sûr, oui, je pense que sur tous les types de jeux, ouais. Voilà, à l'époque il y avait ce qu'on appelait les Kevin sur internet, ça a commencé de là, et aujourd'hui, bah voilà, avec le jeu en ligne, ça s'est un peu encore empiré.
Ouais, le problème c'est que maintenant Kevin il a 30 ans, il a pas grandi dans sa tête.
Le problème c'est qu'il a fait des enfants entre temps, tu vois.
Ouais, en plus.
Mais voilà, on peut noter quand même que c'est une bonne initiative, que bah que c'est bien que ces genres de studios laissent pas à l'abandon leur communauté au milieu de tout ça et essaient de faire quelque chose, même si voilà c'est assez difficile. On sait qu'il y a des bans qui existent, ce genre de choses, mais c'est très difficile de gérer sa communauté totalement, donc bon ça.
Non mais après tu peux pas gérer ta communauté totalement, voilà. On est d'accord, mais moi ce que je trouve intelligent là, c'est qu'il y a des gens qui se disent, au lieu de réinventer la roue à chaque fois, on va se mettre tous ensemble pour s'échanger,
ouais,
des tips,
hein, ouais.
Et trouver, tu vois, un socle commun de bonnes pratiques pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Bon, maintenant j'espère que c'est vraiment un groupe de travail entre guillemets et que c'est pas,
oui,
juste,
pas juste,
tu sais,
un
label qu'on
voilà.
Se pose dessus pour faire genre.
Exactement.
Ouais, on lutte contre les connards, sauf qu'on fait rien en fait.
Non mais c'est ça, moi, qui me fait peur. Je veux bien que voilà, on fasse quelque chose pour la toxicité des joueurs en ligne, mais par contre, dans les faits, je vois pas comment ça va pouvoir être mis en place, parce que, enfin, je veux dire, les jeux en ligne, ça existe depuis pas mal de temps. Les communautés luttent comme ils peuvent à chaque fois en bannant les joueurs qui sont toxiques pour que, voilà, on puisse jouer dans des conditions correctes. Après, je vois pas ce que ça va faire. Mis à part que, ok, on a le label sur la boîte, quoi, mais j'aimerais bien que dans les faits, ça soit vraiment mis en place et que ils trouvent vraiment des solutions pour tout le monde et surtout qu'on élimine au plus ce fléau qui fait chier tout le monde, quoi.
Qui décourage de jouer avec les gens, en fait. Hein, parce que moi, je vous le dis, hein, ça fait des années que je ne joue plus qu'avec mes amis.
Ah, mais surtout que des fois quand tu as des jeux où c'est du PVP, que c'est un affrontement direct, tu vois, où c'est la compétition, bah combien de fois on s'arrive de couper le micro de la team en face ou bien d'un mec qui vient te faire chier.
La team en face, encore, en général, ça se passe bien, je trouve. Moi, de mon expérience, c'est vraiment quand tu joues avec quelqu'un et que tu sais il y a une interdépendance entre les membres de l'équipe en face, à la limite, bon, il y a des gars qui peuvent te troller, etc., ça peut arriver, mais c'est pas dramatique, tu vois. Là où ça commence à devenir problématique, c'est quand les gens dépendent de toi, que tu dépends d'eux, et que forcément, il y a des tensions qui commencent à se mettre en place, parce que selon tu joues pas assez bien, parce qu'il y a un raciste dans le tas qui dit « Ah oui, t'es un russe, hein, c'est ça, t'es un russe, machin, fuck Russian, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. »
Ouais, mais après ça, c'est tu peux pas empêcher les cons d'être cons, quoi, comme on dit. Mais, par exemple, moi, en ce moment, tu vois, je joue à Dark Souls 3, et Dark Souls 3, t'as pas de communication directe avec la personne. Mais par contre, tu vois, quand les mecs, ils se font pourrir en ligne, ils arrivent quand même à en retrouver pour t'envoyer des messages, pour dire t'es qu'un gros connard, etc. Tu vois, moi, je m'en fous. Je vois le message comme ça, je rigole, et puis je passe à autre chose. Tu vois, même limite, je me marre. Mais par contre, si j'étais père de famille, j'aurais vu des gens qui sont là, ils insultent mon fils, que ce soit par message. Enfin, t'as pas envie que des enfants se fassent insulter gratuitement quand ils jouent en ligne, tu vois. Mais même quand tu parles tout simplement, tu vois, de racisme ou bien de sexisme, les mecs qui sont toxiques, bah tu les bannes du jeu et puis c'est tout, quoi.
Ah, mais il y a des boîtes qui font ça, hein. C'est ce que Blizzard fait, par exemple.
Bien sûr.
Ouais, ou bien même, il y a des boîtes, par exemple, le cas sur... comment il s'appelle le jeu de baston sur la Xbox One Killer Instinct.
Ouais.
Où les mecs qui arrêtaient pas de tricher en ligne, en fait, et bah, ils se retrouvaient enfermés qu'avec des tricheurs, tu vois. Moi, je fais plus pour ce type de solution-là, quoi. C'est-à-dire, ok, t'es un connard, bah, tu vas jouer que avec des connards, et puis, finalement, quand tu mets un connard avec un autre connard, bah, entre eux, ils en auront même marre, parce que de tomber sur des mecs comme toi, bah, tu te rends compte que c'est pas cool.
Ouais, alors le problème de ce genre de système, c'est qu'il y a des gens qui en abusent. Parce que je me rappelle notamment, tu sais, sur Dota, tu peux signaler un joueur, etc. Et pour peu que tu tombes sur un groupe de connards qui a décidé que t'étais pas leur goût,
c'est ça,
qui vote contre toi et que tu te retrouves justement là, il y a tous les connards, c'est pas très très plaisant.
C'est ça qui est compliqué avec le système, c'est que oui, tu peux dénoncer entre guillemets les gens, mais voilà, il suffit que t'es pas dans le pif et puis tu vas te faire ban sans aucune raison.
En tout
quoi.
Cas, il faut qu'il y ait un contrôle humain c'est derrière, ça, oui, tu oui. vois.
Bien sûr, c'est pas une décision à prendre à la légère. Tu peux pas te permettre de ban comme ça n'importe qui sous prétexte qu'il plaît pas à telle ou telle personne. Il faudrait que ça soit vérifié derrière, que quelqu'un vérifie, par exemple, les commentaires qu'il a mis sur le chat, ou bien d'en prendre les parties qu'il avait fait à ce moment-là. Et regardez s'il y a eu des commentaires, que ça soit raciste, que ça soit sexiste, que ça soit tout simplement injurieux envers ses collègues ou la team en face. Bien sûr que là, ça demande un effort humain, parce que ça peut pas être automatisé et qu'il y a blanc et noir, tu vois.
Bon, allez, Ben, on va terminer l'actualité de cette semaine avec une annonce du côté d'un certain Will Wright. Will Wright, je le rappelle, il est assez connu pour SimCity, pour les Sims, et malheureusement pour sport aussi. Voilà. Il vient d'annoncer un nouveau jeu, apparemment.
Oui, un jeu qui s'appelle Proxy. Alors, ça va être un jeu mobile, Android, iPad. C'est une sorte de simulation, c'est dur d'expliquer.
Alors, en gros, en fonction de ce que tu fais dans la vraie vie, de tes centres d'intérêt sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, le jeu va être modélisé en fonction de ça.
Voilà, il va apprendre de toi, en fait.
Voilà, pour donner une image grossière, imaginons, je sais pas, tu vas sur un site d'information qui parle de guerre, tu vas avoir un monde dévasté, ce genre de choses. C'est comme ça que je perçois l'idée, hein. Après, peut-être que ce sera pas exactement comme ça, mais vous voyez, en fonction de ce que vous allez consulter, etc., le monde avec lequel tu vas interagir sera modélisé d'après ça.
Va se modéliser en
fonction. C'est de la génération procédurale émergente en fonction de tes centres d'intérêt.
C'est un peu ça, ouais. Alors après, jusqu'à quel niveau ça va pouvoir se faire, on n'en sait rien. L'idée est plutôt sympathique. Après, moi, j'ai comme un doute sur le fait que les gens veuillent bien, parce qu'il va falloir, j'imagine, lier ses comptes entre eux pour que bah, il apprenne de telle ou telle plateforme, réseau social ou autre.
Bah, j'ai envie de dire, c'est pas un hasard si ça sort sur mobile, hein, à un moment donné.
Oui, c'était vraiment fait pour. J'ai un peu l'impression que c'est, entre guillemets, une ancienne gloire qui essaie de prendre des idées qu'il avait et de les mettre au goût du jour et de faire un truc. Alors, moi, je suis pas du tout intéressé. Je suis sûrement pas la bonne cible non plus. Mmh. Mais voilà, je ne sais pas trop quoi en penser.
Non, mais surtout, alors, moi, il y a deux problèmes. Déjà, ok, c'est sympa, ta feature, tout ça. Bon, ça a fait un peu molinesque, hein, je vous l'avoue. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon, oui, là, tu nous avais promis beaucoup de choses pour sport, on a vu le résultat, donc s'il te plaît, évite de faire trop de promesses, voilà. Déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que bon, c'est sympa, hein, d'avoir un monde...
Oui, une fois que t'as ton monde qui s'est créé, tu fais quoi?
Oui. Et ensuite, quid de la politique de confidentialité des données qui vont être pompées chez moi? Le
c'est
truc, c'est que là, on est sur mobile, on sait que sur mobile, monétiser ces jeux, c'est compliqué. Et est-ce qu'il n'y aurait pas la tentation, par exemple, de monétiser tes données
personnelles?
C'est
ça, de collecter quelques informations et de les revendre, oui,
voilà.
Bien sûr.
Bah, après, je pense que ils n'auraient pas l'audace de faire ça dans ton dos, tu vois. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je pense immédiatement et je pense que je ne suis pas le seul.
Oui, c'est clair. Ouais.
Et du coup, peut-être qu'il y a une parano... Alors, injustifié, je sais pas, mais qui se créera chez les gens, qui feront que, attends, oula, c'est un jeu qui va regarder ce que je tweet, etc. Enfin,
bah, en ce moment, il y a un petit scandale autour de Facebook et d'une société partenaire qui a collecté, pareil, des données et qui s'en servait pour des histoires d'élections aux États-Unis. On sait qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de choses non plus. Il faut pas avoir la paranoïa partout et se dire qu'ils le font tous, mais c'est des choses qui existent quand même.
Bah, surtout quand t'es dans un environnement comme le mobile où t'as un modèle économique qui est nul à chier, quoi. Enfin,
oui, bien sûr,
des mecs, ils font pas de pognon, quoi. Donc, ils trouvent les moyens qu'ils peuvent, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un projet quand même qui est un brin nébuleux. J'espère juste pour Will Wright qu'il fera pas une sortie à la Molineux, quoi. C'est-à-dire quelque chose d'un peu triste. À chaque fois qu'ils annoncent un projet, ils peuvent pas s'empêcher, ces mecs-là, de te survendre le truc, quoi. Alors tu vas voir, il va regarder ce que tu fais, ça va créer des mondes incroyables, etc. Bon, on évite surtout d'aller dans le détail du projet parce que dès qu'on commence à creuser, on se rend compte qu'il n'y a rien derrière, quoi. Mais le truc, c'est que du coup, tu crées des attentes pas possibles parce que forcément, comme t'es dans le flou, bah t'es dans le rêve, tu vois. Et les rêves, ça peut être très décevant parfois une fois que tu te réveilles.
Ouais, c'est pour ça que pour le moment, enfin, très contrairement aujourd'hui, je sais pas ce que Proxy propose en termes de gameplay. Je peux expliquer si tu veux le fait que ça génère des mondes, etc.
Ouais, tu connais la techno qui est derrière, quoi, en gros.
Voilà. Tu veux que je dise quoi concrètement là-dessus, mis à part que ils essaient de te vendre un truc qui, au final, sera nul à chier, quoi. Ça trouve que le truc il va être bien, mais ça pue pour le moment, quoi.
Voilà. C'est la longue expérience des fans de Molineux. C'est à force d'être déçu, on détecte tout de suite les mauvaises odeurs. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là, messieurs.
Ok.
On va passer au jeu du moment. Et le jeu du moment, c'est Ghost of a Tale. Alors, petit message d'avertissement, hein, ATH s'est honteusement carapaté durant le générique, n'est-ce pas? Donc, salut ATH et merci de nous avoir lâchés. Salaud! Voilà. Je vais vous parler maintenant de Ghost of a Tale. Je voudrais faire un petit erratum par rapport à ce que j'avais pu déjà dire sur le sujet, à savoir que j'avais évoqué notamment un espèce de jeu d'infiltration avec des mécaniques inspirées d'Hitman, notamment pour ce qui est des costumes. Après y avoir joué, c'est pas du tout ça en fait. C'est-à-dire que, ouais, bon, de loin comme ça, effectivement, oui, t'enfiles des costumes. Ces costumes provoquent des réactions différentes chez les PNJ, dont un costume notamment, qui est le costume de garde, qui te permet de te balader de manière libre, sans pour autant que ça évoque les soupçons des gardes. Bon, sauf que l'armure, elle est tellement lourde que tu vas hyper lentement. Pour être très concret, au final, Ghost of Hotel, c'est surtout un jeu d'aventure narratif avec des mécaniques d'infiltration light et un côté RPG light. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est tellement facile de semer les gardes que l'infiltration, ça devient vite anecdotique, quoi, on va dire. C'est plus quelque chose qui est là pour t'empêcher de progresser en y allant comme dans du beurre, quoi, si tu veux. Le côté RPG, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas juste augmenter ta jauge d'endurance en gagnant un niveau, et tu vas aussi, au fur et à mesure de l'aventure, débloquer des perks. Par exemple, tu sais, quand je tombe d'une très grande hauteur, il me faut moins de temps pour me relever. Ouais. Donc voilà, c'est un jeu qui mise tout son potentiel dans son ambiance, sa narration, et ça, je dois avouer, pour tout vous dire, qu'il le fait vachement bien. C'est-à-dire que déjà, c'est un jeu qui est magnifique pour un jeu indépendant. Je rappelle qu'à la base, c'était un projet qui était en solo. Bon, il y a quelques personnes qui sont venues se greffer par la suite, après qu'il y ait eu la campagne Indiegogo, mais c'est quand même un gars principalement tout seul qui a fait tous les graphismes et ce genre de choses, et c'est un jeu absolument sublime. Il y a une petite ambiance aussi en termes d'univers. Je sais pas si vous connaissez Redwall. Redwall, c'est une série d'animation américaine avec une petite souris dans un univers médiéval. Et c'est exactement ça, Ghost of Hotel. Donc vous allez jouer Tilo, qui est une petite souris ménestrelle, qui pour une raison qu'on ne comprend pas se retrouve enfermée en prison. Et vous allez découvrir un peu comment Tilo s'est retrouvé là, en discutant avec les autres personnages, en trouvant certains collectables. Ça, c'est d'ailleurs très intéressant, c'est-à-dire que c'est un jeu où les collectables sont utiles. On a des collectables qui viennent compléter la narration et qui ont un véritable intérêt. Et je sais pas pour toi, Ben, moi, en général, c'est un souci que j'ai avec les collectables, c'est-à-dire que, en fait, je m'en fous, tu vois, ça sert à rien.
Oui, c'est vrai que dans les RPG, notamment, on est habitué à collecter tout un tas d'objets dont tu te sers très peu, donc, oui, en effet, c'est rarement très utile, ouais.
Donc, moi, en général, aller trouver des collectables, pour le plaisir d'aller trouver des collectables, ça m'emmerde. Sauf si aller les chercher, tu sais, c'est un challenge comme dans un Mario, tu vois. C'est-à-dire que pour arriver à les choper, va falloir gérer les phases de plateforme, quoi. Mais sinon, à part ça, le plaisir d'aller ramasser des trucs, c'est pas du tout ma cam, voilà. Et là, justement, il y a une motivation, tu vois, qui est que j'ai envie d'apprendre sur le lore du jeu. Et ce d'autant plus que le jeu est écrit de manière exquise. Je vous recommande d'y jouer en français parce que la version française est de qualité. Et pourquoi elle est de qualité ? Parce que c'est un français qui est à l'origine de ce jeu. Et ça se voit. Pourquoi ça se voit ? Parce que déjà, c'est un jeu qui, en français, conserve plusieurs niveaux de lecture avec des personnages qui sont hyper attachants. Par contre, je vous le dis tout de suite, ce sont des dialogues qui sont écrits, c'est un jeu qui n'a pas beaucoup de moyens, et donc il n'y a pas, tu sais, genre des animations durant les dialogues, non, et ils ont bien compris qu'ils n'avaient pas de pognon. Comme il n'y a pas de pognon, bah qu'est-ce qu'on fait ? On met des bulles de dialogue avec des portraits des personnages, qui expriment très bien les émotions, d'ailleurs pour chaque personnage du jeu, il y a tout un set d'expressions qui collent très bien au texte. Ça, tu vois, combiné au fait que le jeu est beau, à une direction artistique qui te met direct dedans, combiné à un rythme aussi qui est vraiment super bien foutu, bah ça donne un jeu, voilà, qui est très très plaisant, pour peu que vous appréciez les expériences narratives, mais pas que. Parce que même s'il a des mécaniques d'infiltration assez light, et des mécaniques RPG light, il a par contre une qualité majeure en ce qui me concerne, c'est le level design. Vous savez, Dark Souls, ce sont des jeux où, à un moment donné, t'as fait tout le tour de la map, et là, hop, tu débloques un raccourci qui te ramène au tout début du jeu, et qui permet comme ça de voyager plus rapidement. Et Ghost of Hotel, très clairement, il est de cette école-là en termes de level design, c'est-à-dire que tu vas te balader, tu vas découvrir des coins que tu connaissais pas, etc. Et c'est un jeu qui, encore une fois, a bien compris qu'il n'avait pas beaucoup de moyens, donc il t'a pas fait un monde ouvert absolument gigantesque. Mais par contre, il t'a fait un monde replié sur lui-même, bourré de plein de raccourcis de partout, que tu vas prendre plaisir à explorer, où tu vas avoir une chier de contenu. C'est-à-dire que par contre, les quêtes, je vous préviens, vous en allez en avoir, mais ras la gueule, quoi. Vraiment, c'est un jeu qui est généreux, avec des quêtes très bien écrites, etc. Bon, par contre, au rayon des défauts, comme je l'ai dit déjà, infiltration light, hein, très clairement, l'infiltration au bout d'un moment, voilà, tu t'en fous.
Ouais, ça,
surtout qu'en
simple,
plus, il y a une mécanique, tu peux... En fait, si tu veux, dans ce jeu, à chaque fois que tu te caches dans un tonneau, les gardes te perdent de vue. Et le garde, il aura jamais l'idée d'aller chercher dans le coffre. Bon, après, je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que, en fait, la sauvegarde rapide, elle se fait dans les coffres et dans les tonneaux. Donc,
d'accord,
imaginez,
ouais.
Tu te retrouves dans une situation
ouais.
où tu fais une sauvegarde rapide, t'as le garde qui regarde.
Tu te retrouves bloqué.
Et
ouais.
t'es niqué à vie. Voilà. Bon, après, je pense qu'il y aurait eu moyen de contourner ça, mais bon, de toute
oui,
façon,
c'est
pas l'objectif du jeu.
Oui, voilà, ouais. c'est pas incohérent d'avoir fait ça non plus. Ouais.
Par contre, il y a un truc que moi je lui reproche, et ça, c'est par contre un gros problème pour moi, c'est que c'est un jeu, tu sais, qui va beaucoup te dire, va chercher ça, fais ci, fais ça, tu vois, enfin, c'est des quêtes FedEx, quoi. Mais le problème, c'est que c'est ouais. des quêtes FedEx qui sont mal conçues. C'est-à-dire que c'est un jeu, je trouve, qui a incroyablement du mal à te dire, par exemple, alors Coco, en fait, ce n'est que plus tard, dans un passage où t'es pas encore allé, que tu pourras terminer la quête.
Des fois, tu passes du temps à chercher sur un truc qui te mène à rien pour le moment, quoi.
Voilà, c'est ça. Je vais donner un exemple. À un moment donné, le chef de la garnison me demande d'enquêter sur un truc. Bon, ok, je vais enquêter et je vais aller voir mon indic. Et là, l'indic, il me dit, écoute, retrouve-moi là, ce soir. Parce qu'il y a aussi un système d'heures. Le temps passe en temps réel et les PNJ ont un agenda, etc.
Mm-hmm.
Il dit donc, retrouve-moi ce soir à tel endroit. Sauf que, alors, l'endroit comme ça, ça ne disait rien, tu vois. Mais comme c'est un jeu, du coup, tu sais, où il y a des raccourcis et des fois, t'as peut-être loupé un truc, t'as pas vu un PNJ, j'ai tourné en rond pendant trois plombes pour chercher l'endroit en question. Sauf que je l'ai pas trouvé, en fait, parce que c'est un endroit que tu débloques plus tard. Voilà. Donc, en suivant le cours de la quête principale. Et ça, le jeu, à aucun moment, il te l'indique. Il y a plein de moments comme ça où tu te retrouves dans cette situation. Et c'est d'autant plus problématique qu'on va arriver au plus gros défaut de Ghost of a Tell, et qui est le défaut qui va faire que malheureusement, même si je kiffe ce jeu à mort, je vais vous dire de ne surtout pas l'acheter pour le moment, c'est que le jeu est buggé. Et il est bien buggé. Je sais pas si t'étais là, Ben, quand j'ai râlé dans le chat de la rédac.
Si, si, j'ai vu passer ça.
En gros, si vous voulez, j'ai terminé le jeu. Et ça a été l'expérience, je crois, la plus frustrante de ma vie. J'ai été une putain de boule de frustration. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans la scène finale d'un jeu, que c'est une scène un peu épique, etc., et que d'un seul coup, encore une fois, tu as des problèmes de son, c'est-à-dire que tu n'entends pas certains bruitages, ce genre de choses. Et ça se voit, en fait. Parce que si tu veux, quand t'as un jeu qui est un peu polish comme ça, et quand t'as les bruitages qui marchent, tu te rends compte que c'est un jeu qui est génial en termes de son, tu vois.
Et ça te casse tellement l'immersion que, ouais.
Voilà. Donc, déjà, là, je commençais à être très énervé. Et ensuite, vient le moment des crédits de fin. Et c'est là où j'ai rage quit. C'est-à-dire que, un, j'ai pas vu la scène post-générique. Histoire de me faire un bon gros doigt d'honneur final, parce que c'est un peu l'amour vache Ghost of a Tell. T'as envie de l'aimer, mais lui dit non, mais moi je t'aime pas en fait. Ce qui se passe, c'est que j'ai beau appuyer sur le bouton pour revenir sur le menu principal, bah il retourne pas sur le menu principal.
Ah.
Ma dernière expérience avec ce jeu, c'est un Alt F4. On en est à ce degré de finition. Je rappelle que Ghost of a Tell, c'est un jeu qui a été en accès anticipé. Comme je l'ai dit la semaine dernière, parce que j'ai râlé pendant une plombe là-dessus, les développeurs sont réactifs, je reconnais, mais à un moment donné, il y a des trucs que je peux plus accepter, quoi. C'est-à-dire que ça, vraiment, c'est, pour moi, ça a été la goutte d'eau. Et en fait, si tu veux, je sais pas pour toi, Ben, moi, je suis un joueur, je refuse de jouer à des jeux narratifs en accès anticipé. Pourquoi ? Parce que autant sur un jeu, un gameplay, ça me dérange pas, parce que les mécaniques, elles évoluent au fur et à mesure. Et puis c'est intéressant, tu vois, de voir l'évolution d'un jeu. Autant un jeu narratif, bah, une fois que tu l'as fini, quoi.
Oui, exactement, ouais, c'est vrai.
Surtout que c'est un jeu Ghost of a Tell qui est pas énormément créatif, tu sais, en termes de solutions pour résoudre des quêtes. Il y a une solution pour chaque quête, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas un Deus Ex, tu vois, c'est pas un immersive sim, hein, pas du tout. Comme il y a qu'une solution pour résoudre les quêtes, comme la narration, elle sera la même, parce qu'en plus, j'ai retourné le jeu, tu vois, donc... Du coup, c'est pas un jeu que je vais recommencer. Et quoi qu'il arrive, donc, ça veut dire que j'ai gâché ma première expérience avec ce jeu. Donc, moi, comme je suis quelqu'un de raisonnable, tu vois, et que je peux pas me permettre de gâcher l'expérience des autres, je peux juste vous dire que peut-être qu'il y a des gens qui ont pas eu de bug. Moi, j'en ai eu plein. J'en ai eu un autre, par exemple, que j'ai expliqué la semaine dernière, je reviendrai pas dessus, qui était un bug, en gros, qui m'empêchait de progresser dans la quête principale. J'ai pu le résoudre parce que je suis un paranoïaque comme Ben qui, à force de jouer à des JRPG, fait des sauvegardes tout le temps.
Fait tout le temps des sauvegardes.
Voilà. Donc j'ai pu le résoudre comme ça, mais tout le monde n'est pas dans mon cas.
T'es jamais, imagine, tu rates un personnage.
Je sais, en regardant les forums de Steam, qu'il y a toujours des bugs sur ce jeu. Et donc, décemment, moi, je peux pas vous le recommander. Et ce d'autant plus que ça pose un problème aussi vis-à-vis de la progression dans le jeu. Tu sais, quand t'as un jeu qui bug tout le temps, et que tu sais que ça peut arriver que les quêtes, elles marchent pas. Ça amplifie encore plus le phénomène que je t'ai expliqué tout à l'heure sur le fait que le jeu ne sait pas te télégrapher les moments où il faut que tu passes à la suite. Parce que du coup, comme le jeu il est buggé, hein, il y a un moment donné où tu te dis, putain, ça se trouve c'est un bug.
Ah, ouais.
Et donc tu tournes pour rien en fait, parce que c'est dans la suite de l'histoire, mais tu le sais pas. Et déjà à la base tu le savais pas, et tu le sais d'autant moins que bah le jeu il est buggé. Et du coup, tu deviens parano. C'est un problème, quand même. Ça amplifie un défaut du jeu. Enfin, bref. Moi, en l'état, je peux pas vous recommander. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand t'as plein de scènes, parce que là, par rapport au son, je vous ai décrit une scène, mais il y en a plein, en fait. Et ça en est à un stade, si vous voulez, où je vais pas vous parler du son, parce qu'en fait, je suis même pas certain d'avoir eu l'expérience voulue par les développeurs. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, par exemple, à un moment donné, en me baladant... que d'un seul coup, tu vois, il y a une musique qui se déclenche comme ça. Et je vois que c'est pas by design, hein, parce que, je veux dire que quand la musique, elle se déclenche en plein milieu d'un couplet, c'est un poil dissonant, quoi, si tu veux, tu te rends compte qu'il y a une couille dans le potage, quoi. Du coup, je me dis, alors, si ça se trouve, il y a plein de musique que j'ai pas entendu, il y a plein de bruitages que j'ai pas entendu, et en fait, j'ai une expérience biaisée par rapport au bruitage. Donc, tout ce que je peux vous dire par rapport à l'ambiance sonore, c'est que quand ça marche, ça a l'air bien. Mais par contre, il y a des moments qui sont très bizarres parce que tu dis, alors, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu, là, il n'y a pas de musique, là, quand je balance une bombe sur un ver géant, il n'y a pas d'explosion, enfin, voilà. Ghost of Tell, pour moi, c'est potentiellement un de mes jeux de l'année, mais potentiellement seulement. Parce que, il m'a dit d'aller me faire foutre le jeu au final. Attendez un ou deux mois et prenez-le. Moi, je vous le recommande chaudement parce que c'est un jeu quand même, ne serait-ce par son ambiance, tu sais, parce que c'est une ambiance très bonne enfant, les dialogues sont super bien écrits, c'est un jeu qui est drôle en plus. C'est un jeu qui est écrit de manière magnifique, tu passes un super bon moment dessus, le level design est génial, etc. Ce jeu, j'aimerais bien ne vous en dire que du bien. Sauf que, même en mettant de côté les problèmes de design qui sont pas très graves, tu vois, pris seulement comme ça, les bugs qui se rajoutent derrière font que, en l'état, moi, je dis non. Voilà, ne l'achetez pas en l'état. Et LKBD, toi qui as acheté encore une fois le jeu suite au fait que j'en ai parlé, j'espère sincèrement que tu n'auras pas de problème et que ton expérience ne sera pas gâchée. Moi, ça me ferait chier qu'il y ait des gens qui aient joué à ce jeu qui aient la même expérience que moi, c'est-à-dire une expérience atroce à la fin, quoi. Parce que franchement, ça fait d'autant plus mal si tu veux quand t'apprécies un jeu, quoi.
Ben, c'est vraiment dommage parce que, comme tu dis, c'est un jeu que dans quelques mois on conseillerait sûrement à tout le monde. Et toi, t'as eu ton expérience un peu gâchée à cause de bugs. Je pense que, enfin, dans tout ce que j'en ai pu lire, pu voir, et même toi dans ce que tu dis, c'est un jeu qui vaut le coup, qui va valoir le coup. Et c'est vrai que ben, il est peut-être sorti un peu trop tôt. Et ce côté qui te casse l'immersion dans ce genre de jeu, ça te gâche un peu ton expérience. Toi, voilà, t'as eu en plus des moments où t'as eu des bugs un peu critiques, voilà, sur la fin du jeu, comme tu dis, le dernier moment que tu passes dans le jeu, c'est un bug.
Je précise que j'ai eu deux, parce que j'ai parlé d'un bug bloquant sur la quête principale, mais au final, j'en ai eu deux, hein, des comme ça. Ce qui est inacceptable dans un jeu fini, tu vois, enfin.
Voilà, comme tu l'as dit, après, aujourd'hui, on peut juste vous conseiller d'attendre, je pense, parce que le jeu a l'air vraiment très bien, et même toi, tu en es très content. Il faut être un peu patient avec ce jeu. Après, voilà, ça n'empêche pas qu'il aurait pas dû sortir tout de suite. Ça, t'en avais déjà parlé. Donc, on va pas revenir là-dessus. Mais ouais, c'est un peu frustrant pour le joueur qui rencontre ces bugs, quoi. Une petite question en termes de durée de vie, du coup, parce que toi, tu l'as fini. C'est combien de temps à peu près ?
Alors pour moi, c'est très difficile à évaluer parce que c'est un jeu, en plus je me suis amusé à faire des strats de speedrun dessus.
D'accord.
Du coup, j'ai passé plus de temps que de raison. Je dirais 10-15 heures, je pense.
D'accord. Oui, donc ce qui est quand même plutôt correct pour
Oh oui, non mais c'est très correct. C'est ni trop long ni trop court. Ça aussi c'est un jeu qui maîtrise parfaitement son rythme. La narration est bien menée. Par contre, juste une petite critique par rapport au scénario. C'est un jeu très clairement qui appelle à une suite. Il ouvre beaucoup de portes et il n'en enferme pas beaucoup. Mais franchement, j'ai passé un super moment. Enfin, vraiment, enfin, si le jeu m'avait pas craché à la gueule, ça aurait été une expérience géniale. Voilà. Moralité de l'histoire, ne prenez pas des jeux qui viennent tout juste de sortir d'accès anticipé, prenez-les 2 mois après. Voilà. C'est ce que je retiens, tu vois. Bon, allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.
Ciao à tous.